Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h24, ça s'appelle Le Cartel des Fraudes aux éditions Ring. Charles Pratt est avec nous, magistrat, ancien magistrat au sein de la Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude et au ministère du Budget. Il est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour. Oui, alors Charles Pratt, la fraude sociale correspondrait à 50 milliards, c'est ce que...
Fraude aux prestations sociales.
De prestations sociales, oui, absolument. Non mais on la résume en fait assez vite, quoi. Quasiment un retraité sur deux serait né à l'étranger, si l'on en croit vos chiffres, hein, c'est ce qui est dit, et corroboré par évidemment d'autres chiffres aussi. Vous allez nous expliquer pourquoi ça vous paraît étrange et ça ressemble à de la fraude. D'abord sur ces retraités nés à l'étranger.
Les retraités nés à l'étranger. Alors, merci. En réalité, dans le livre, j'explique les choses. C'est vrai que tout est parti de ce qu'on avait découvert il y a une dizaine d'années sur la problématique de l'immatriculation sociale des gens nés à l'étranger, de la fraude documentaire, c'est-à-dire de l'utilisation de faux documents pour s'inscrire à la sécurité sociale. Au mois de mars dernier, j'ai amené des éléments concrets et officiels à la commission d'enquête parlementaire qui travaillait sur ce problème-là. Et le gouvernement nous expliquait que nous avions, sur un ensemble de 8 200 000 personnes à l'étranger en France, que nous avions 4,1 millions de retraités, de gens nés à l'étranger qui percevaient des retraites. Alors il faut compter là-dedans les gens qui sont à l'étranger, qui sont partis prendre leur retraite dans un autre pays, etc., qui vivent ailleurs, bon, mais qui ont travaillé en France et qui ont leur retraite. Et en réalité, donc on était sur un chiffre de 37% finalement, hein, de gens qui étaient sur le territoire nés à l'étranger qui seraient retraités, ce qui déjà était une anomalie statistique par rapport au pourcentage de gens nés à l'étranger dans le pays qui est d'environ 12-13%. La Cour des comptes est venue le 8 septembre dernier rendre un rapport sur la fraude aux prestations sociales. Et alors, vous savez, c'est comme dans les contrats d'assurance. Il faut toujours lire ce qui est écrit en tout petit. Et là, vous avez une note de bas de page où la Cour des comptes explique non, le gouvernement, en fait, s'est trompé quand il a donné cette réponse. Il y aurait, pour la Cour des comptes, hein, c'est pas moi qui le dis, la Cour des comptes, il y aurait 7,7 millions de personnes nées à l'étranger qui bénéficieraient d'une prestation retraite. Il y a 14 millions de retraités à peu près, donc ça fait 1 sur 2. Et rapporté à cette population de gens nés à l'étranger en France, 8,4 millions maintenant, puisque ça a un peu évolué avec le chiffre de l'INSEE en 2020, si vous en relevez toujours ces retraités qui sont à l'étranger, il y a 1,1 million à peu près qui prennent leur retraite ailleurs, ça en ferait 6,6 millions sur le territoire, ça veut dire 80% des gens qui seront nés à l'étranger, qui seraient sur le territoire, seraient des retraités. Alors, comme anomalie statistique, ça se pose là, parce que, je sais pas, regardez par la fenêtre, moi j'ai pas l'impression que 80% des gens
nés à l'étranger... Non mais on pourrait dire que peut-être il y a eu beaucoup de gens qui sont nés à l'étranger, qui sont venus travailler en France et qui sont repartis en fait...
Oui mais ça on a les chiffres, ça, on sait que c'est 1,1 million retraités nés à l'étranger, enfin retraités qui résident à l'étranger, et a priori je crois que les derniers chiffres ça doit être 800 000 qui sont nés à l'étranger, qui sont à la retraite à l'étranger.
Mais alors comment font-ils pour frauder?
C'est une vraie question, si vous voulez, parce que là il va falloir que la Cour des comptes nous explique. Soit la Cour des comptes a écrit une bêtise en disant 7,7 millions, soit on a un vrai sujet, parce que très, très clairement ça ne correspond pas à la réalité. C'est juste pas possible. Ou alors c'est qu'on a vraiment des millions de personnes qui récupèrent du minimum vieillesse, des retraites, etc. Enfin là c'est quelque chose qui va même au-delà de ce que j'ai écrit dans le livre, parce que ça c'est une information que je n'avais pas à l'époque où il est parti à l'impression, ça vient de tomber, date de moins d'un mois. Et donc là, on a une vraie question à élucider. Je pense que les parlementaires vont certainement s'en saisir, poser des questions écrites, des questions au gouvernement, etc. Parce que ce coût des 7 700 000 retraités à l'étranger, c'est un truc.
Alors même s'il n'y avait pas autant de personnes, le chiffre était un petit peu minoré, comment font-ils pour monter et comment ça échappe au radar français?
Ah non, ça échappe pas au radar. Si vous voulez, sur la fraude aux retraites, alors les retraites, normalement, vous avez une retraite si vous avez cotisé.
Ouais.
Donc l'assurance vieillesse, les régimes de retraite vont vous verser cette retraite en regardant ce que vous avez cotisé dans votre carrière. Donc normalement, c'est à peu près sécurisé, puisqu'on ne va pas vous payer une retraite si vous n'avez pas cotisé. Sauf si vous rentrez dans le dispositif de ce qu'on appelait le minimum vieillesse avant, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, où là vous avez droit à une petite retraite dans les 800 euros et quelques mensuels, sans avoir cotisé, il n'y a pas besoin. Mais c'est une prestation qui est soumise à condition de résidence, c'est-à-dire que c'est réservé aux gens, quelle que soit la nationalité, mais qui vivent en France, soit parce qu'ils sont français, soit parce qu'ils sont étrangers avec un titre de séjour en situation régulière, qui sont en France depuis X années, etc. Donc là, on peut leur servir cette prestation sociale, qui est pour éviter que les gens crèvent la dalle et soit dans une situation d'extrême pauvreté. Donc, ce qui est normal, hein, c'est une prestation sociale classique en France qui existe depuis très très longtemps. D'ailleurs, sur laquelle on peut se repayer sur l'héritage, etc. Bon, on va pas entrer
techniquement là-dedans. Non, non, parce qu'après, ça va être...
Mais la principale fraude qu'on a là-dessus, c'est les gens qui, en fait, viennent demander cette prestation sociale, mais qui n'habitent pas en France.
Ouais.
Et donc, ils font croire, c'est de la fraude à la résidence, ils font croire qu'ils sont en France, mais ils n'y sont pas. Alors, je cite un exemple dans le livre. On avait fait un contrôle il y a quelques années dans le département du Var, justement là-dessus, pour vérifier la résidence des gens. Et les contrôleurs s'étaient rendus compte que 72% des gens contrôlés, en fait, ne résidaient pas en France. Donc, vous aviez un taux de fraude au minimum vieillesse de 72%. Et ces mêmes personnes, pour justifier un logement, souvent prenaient des petites chambres dans les foyers, etc. Et en plus, fraudaient aux allocations logement parce que ça leur permettait de payer en plus le loyer, quoi. Et là, on avait un peu plus de 40% de taux de fraude.
Ouais. Mais comment se fait-il que la fraude fiscale se soit hyper populaire et la fraude sociale se soit tabou en France?
Alors, hyper populaire, c'est-à-dire hyper populaire. Non,
c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup et oui, ça, alors, on n'en parle jamais.
Alors, on en parle beaucoup parce
que. On met sous le tapis.
Mais parce que c'est au niveau de la. Soit politique, soit médiatique, c'est bien, c'est la fraude des riches, etc. Bon, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que la fraude fiscale, ça peut être aussi beaucoup d'organisations criminelles. On l'a vu avec la problématique des quotas carbone, hein. Mm-hmm. On était en face de véritables mafias. La grosse fraude fiscale, les escroques TVA, etc., la vraie fraude fiscale, c'est pas les riches, les pauvres, etc., ce sont des organisations criminelles. Et c'est vrai que ça plaît un petit peu aux journalistes, ça fait bien, on parle de milliards, de centaines de milliards,
d'évasion,
etc.
Fiscale.
D'évasion, machin, ouais. Tout le monde mélange tout, ça, ouais. C'est très bien. Sur la fraude aux prestations sociales, en réalité, les gens viennent vous dire, ah ben non,
on s'attaque aux pauvres.
Voilà, c'est la chasse aux pauvres et la chasse aux immigrés. Non, en fait, c'est le pauvre, il est pas fraudeur. Hein. C'est pas parce que vous êtes pauvre ou d'origine modeste que vous êtes un truand. C'est pas vrai. Et alors, moi, ça fait 25 ans quand même que je vois du bandit et du fraudeur. Globalement, les gens modestes, ils sont scrupuleusement honnêtes. Hein. Ce que je dis souvent, c'est les types, ils se jetteraient par la fenêtre plutôt que d'aller piquer un carambar au supermarché du coin. Donc c'est pas vrai. L'équation pauvre égale fraudeur, c'est une insulte qui est faite aux gens, c'est hallucinant. Alors souvent, c'est d'ailleurs des gens de gauche qui vous disent ça, Gérard Filoche en tête, hein, pour pas le citer. Moi, je trouve ça hallucinant. Quoi. C'est un espèce de mépris de classe qui est délirant. Mais bon, c'est comme ça. Et derrière, tant dans la haute administration que chez le personnel politique, ils ont cette espèce de tétanie. Voilà, ils veulent pas qu'on les accuse de faire la chasse aux pauvres et aux étrangers. Mais si vous voulez, c'est un truc... voilà, et derrière... Alors j'explique ça aussi dans le livre, il faut aussi regarder l'acceptation de la fraude par la population. Vous avez un sondage qui a été fait par l'Institut Harris Interactive il y a 2-3 ans, à la demande de l'OCDE, du ministère des Finances, et vous regardez les taux d'acceptation de la fraude. Et en fait, la fraude fiscale, elle est très acceptée par la population. Oui. C'est hallucinant, notamment la fraude à la TVA. Oui. Payer aux blagues pour ne pas payer la TVA, vous avez 2 Français sur 3 qui trouvent ça normal.
Oui.
C'est un gros délire. Hein. Et les gens acceptent beaucoup plus qu'on truande fiscalement que socialement. Le taux d'acceptation de la fraude aux prestations sociales, c'est 18%. Le taux d'acceptation de la fraude fiscale, de pas déclarer ses revenus, etc., c'est environ 1 Français sur 3. Et je vous dis, sur la TVA, c'est 2 Français sur 3 qui disent « Ouais, c'est normal de payer au black, voire même de rémunérer quelqu'un sans le déclarer, etc. »
Allez, on va revenir à la fraude aux prestations sociales avec vous, Charles Prats. Cartel des fraudes, c'est aux éditions Ring. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h et vous pouvez appeler 0826-300-300.
9h32, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Ça s'appelle le cartel des fraudes, vous ne pouvez pas le louper, il est jaune, vous pouvez le voir partout dans tous les magasins et toutes les librairies. Charles Prats est avec nous pour ce livre assez incroyable, magistrat, ancien magistrat au sein de la délégation nationale à la lutte contre la fraude.
Oui, et toujours vice-président au tribunal de grande instance de Paris. Ça ne vous pose pas des problèmes d'ailleurs d'écrire ça en parallèle, non? On vous dit pas...
Qu'est-ce que vous voulez qu'on me dise? À partir du moment où vous dites la vérité, vous êtes sur des sources ouvertes. Non, des pressions au niveau du boulot, non, j'en ai pas eu très objectivement. Après, des menaces sur Internet, ça, il y en a plein tout le temps. Thibault Nombrial déposait une plainte pour moi. Il y avait des histoires de menaces de mort avec des côtés apologie du terrorisme islamiste qui étaient apparus sur Internet. Mais en tant que tel, non, j'ai pas eu de problème.
Alors, à propos de terroristes, parce que vous écrivez notamment qu'il y en a, et il y a les noms, etc., hein, qui étaient en Belgique, et puis qui sont venus quand même frauder en France, tranquillement, quoi.
Oui, c'est celui que j'appelle Abou Alok, c'est Zakaria Asbaï, c'est un djihadiste belge, qui faisait partie de Sharia for Belgium, c'est une organisation belge qui était basé, c'est le gars de Vilvorde hein, en fait. Et donc lui, on sait qu'il était en 2013 en Syrie à la réunion de fondation de l'État islamique en Syrie avec Abu Bakr al-Baghdadi quand ils ont transféré d'Irak en Syrie. Et donc il était là avec deux de ses petits camarades djihado belges sur place en 2013, et on le repère en France en 2015, où il vient tenter, au moment des attentats du 13 novembre, d'ouvrir des comptes bancaires. Alors, il va se faire bloquer par certaines banques, mais derrière, on va le retrouver inscrit à la Sécurité sociale française. Puisqu'en fait, j'avais proposé à la commission d'enquête de faire ce qu'on appelle un crash test, c'est-à-dire qu'on leur a sorti un petit échantillon de 200 environ identités de faux documents, repéré hein, dans le système financier français. Et l'idée, c'était d'inverser un petit peu la logique, c'était plutôt de dire on va chercher dans le système à picorer pour voir quel est le taux de fraude en faux documents. On va inverser les choses et on va dire voilà, on a un échantillon de faux documents et on regarde s'ils y sont. Ouais. Et donc les députés ont fait ce travail-là et globalement, ils avaient 40 et quelques pourcents de l'échantillon qui avait réussi avec les faux documents à s'inscrire à la Sécurité sociale française, dont Zakaria Azbaï, le fameux, qui est passé comme une lettre à la poste avec une fausse carte d'identité belge.
Alors derrière avec tout ça, Charles Prats, il y a une question qu'on se pose parce que là, on a vu encore ces derniers jours, par exemple, un ministre comorien qui touche le RSA. On se dit, mais comment est-ce possible? N'y a-t-il pas en fait des contrôles? Parce qu'on a l'impression, vous et moi, qu'on est contrôlé en permanence quand même. Et comment on peut arriver en fait à ces aberrations?
C'est une question à poser aux organismes de protection sociale. Si vous voulez, alors ils vont vous dire non, mais on contrôle, il n'y a pas de problème, etc. Quand on regarde en micro contrôle, oui, ils vont vous dire on contrôle. Moi, c'est vrai que j'ai fait une approche un peu différente à un moment donné, c'est-à-dire que j'ai fait l'approche par le haut. C'est tout le sujet du livre, c'est que j'ai dit à un moment donné, c'est simple, on va regarder en grande masse s'il n'y a pas un problème. Voilà, on a un pays de 67 millions d'habitants, et on va regarder, question bête, un gamin à la maternelle, il comprend, et on va regarder combien il y a de gens qui perçoivent de prestations sur les 67 millions. Voilà, et moi, les chiffres...
Et là, on arrive à 75 millions, quoi, à peu
près. 73,7 millions sur le répertoire national commun de la protection sociale. Donc un différentiel de 6 700 000. Alors on peut toujours avoir des gens, toujours les fameux retraités à l'étranger, etc.
Oui, c'est ça.
Les gens détachés, les Français de la Caisse d'étrangers et compagnie, vous rajoutez 1 800 000 personnes. Donc on arrive à 5 millions globalement de personnes en surnombre.
Ouais.
Donc là, il faut bien expliquer.
5 millions de fantômes, quoi.
Voilà, mais qui passent à la caisse.
Mais qui passent à la caisse.
Ouais, et le 8 septembre, la Cour des comptes est allée plus loin, puisqu'en fait, dans son rapport, elle a dit, en fait, nous, on a regardé donc au SNIRAM, au système d'information de l'assurance maladie. La Cour des comptes nous explique qu'en réalité, nous avons 75 300 000 assurés sociaux. Dans un pays de 67 millions d'habitants. C'est-à-dire que la Cour des comptes va même plus loin. Alors, Pierre Moscovici ne met pas un signe égal en milliards derrière.
Non.
Mais bon, c'est quand même écrit noir sur blanc.
Non, il ne parle pas, lui, des sommes que vous évoquez.
Il
ne
parle pas des
sommes,
mais par contre, il écrit noir sur blanc dans le rapport de la Cour des comptes qu'il y a 8 200 000 assurés sociaux en plus que de gens qui existent sur le territoire.
Alexis Poulain.
Je trouve ça incroyable de voir la façon dont on est désemparé, où on organise finalement la faillite de l'État ou des services sociaux. À l'heure du big data, c'est dingue de voir que c'est encore possible, parce que finalement, repérer un faux document, ça devrait être rendu plus facile. Savoir que, voilà, juste faire les comptes, 8 millions de fantômes, à ce moment-là, où sont-ils? Comment c'est possible? Quels sont les outils qui pourraient arriver? Est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui, puisqu'on nous a bassiné avec Stop Covid, on dit la Startup Nation est capable de sortir des trucs, des usines à gaz numérique, est-ce qu'au moins il y a une réflexion au niveau de l'État, au niveau des responsables, au-delà de la Cour des comptes, pour avoir les outils adéquats à l'heure de la fraude massive aux prestations sociales?
Alors, je pense que ça commence à évoluer et la sortie du livre n'y est pas étrangère. Si vous voulez, cette histoire de surnombre, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a le facsimilé du rapport dans le livre en pièce annexe. On a un rapport de l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, c'est un rapport conjoint de septembre 2013, qui déjà, à l'époque, identifie 8 millions de cartes vitales actives en surnombre, encore un autre sujet, les cartes vitales, et surtout 6 800 000 personnes prises en charge par les régimes d'assurance maladie, en plus des gens qui sont sur le territoire. Donc c'est déjà quelque chose qui est écrit noir sur blanc par l'IGF et l'IGAS, les deux inspections, tant du ministère des Finances que du ministère des Affaires Sociales, en septembre 2013, il y a 7 ans. Là, la Cour des comptes fait le même travail en septembre 2020, donc 7 ans après, et on est passé de 6 millions 7, 6 millions 8 à 8 millions 2.
Ouais.
Donc la situation s'est pas améliorée, elle s'est aggravée en réalité. Et si vous prenez, moi c'est un travail que j'ai fait, si vous prenez l'évolution de la démographie, donc l'augmentation de la population sur le territoire, et que vous le comparez à l'augmentation des gens pris en charge, ça augmente encore plus vite. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des montants qui sont énormes. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre ça en charge? Est-ce que c'est par l'informatique, le big data? Manifestement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ou alors, c'est que les organismes sociaux...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'accord, quoi. Là, non, il y en a un petit peu en Europe, et si on en avait...
Mais ce n'est pas une question d'accord international. Là, c'est une question comment est-ce qu'on gère la banque de données, la base de gens qui sont pris en charge. Et il faut quand même se poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on en a X millions en plus de gens qui existent. Ça peut être des expatriés, ça peut être des gens qui sont venus à un moment sur le territoire français, qui sont repartis, mais qui conservent leurs droits sans dire qu'ils sont partis pour pouvoir continuer à consommer, etc. Mmh. Il peut y avoir plein d'explications. Ça peut être des fausses identités avec des faux documents, des gens qui se créent des tas d'identités. Et donc derrière, la seule solution plausible et concrète qui existe, c'est de remettre tout à plat. C'est-à-dire, moi, ce que j'explique, c'est de réenrôler la population. C'est-à-dire qu'on retourne...
certifier
son numéro de sécu avec ses empreintes digitales. Ouais, et puis comme ça, si quelqu'un il a 10 identités, ça va tout de suite clignoter parce qu'il y aura ses empreintes digitales. Ça coûte pas très cher, les cartes d'identité, les cartes biométriques. On a vendu, Gemalto, une boîte française, a vendu à l'Algérie un système de cartes d'identité biométriques super performant. Les Algériens, ils ont 30 millions de cartes d'identité biométriques pour 16 millions d'euros, donc ça coûte rien en réalité. Et si vous faites ça, la biométrie, vous allez remettre tout à plat, vous allez éviter les doublons d'identité, vous allez vérifier du coup que les gens, comme ils reviennent, est-ce qu'ils ont vraiment droit ou pas à des prestations. Et jusqu'à cet été, tout le monde vous disait dans l'administration, non, pas la biométrie, ça sert à rien, c'est très lourd, qu'est-ce que vous nous racontez là, etc. Et là, comme par hasard, présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale il y a quelques jours, donc il va arriver donc en discussion au Parlement, cet automne, et dans la présentation, on commence à parler, expérimentation de la biométrie,
Donc c'est une piste pour éviter qu'on ait autant de centenaires qui bénéficient justement d'un...
Ça, c'est quand même incroyable. Juste de rappeler, avant de prendre Pierre de Marseille, c'est 787 milliards d'euros les prestations sociales, c'est un quart du PIB.
Oui, non, mais ça, c'est énorme, c'est l'ensemble, effectivement.
Quelques millions investis sur un nouveau système biométrique, un reset ou une gestion de la base de données, ça me paraîtrait de l'argent bien investi. Mais...
Allez.
On demande son avis à Pierre qui nous appelle de Marseille. Bonjour Pierre.
Bonjour Pierre.
Bonjour, comment allez-vous?
Nous, ça va, et vous? On est un peu agacés, mais vous?
Posez votre question ou votre réflexion à Charles Prats.
C'est pas des questions, je félicite Charles Prats d'avoir mis le doigt sur un problème important qu'il ne faudra pas lâcher et qui est extrêmement vaste. Je suis personnellement médecin des hôpitaux. Et j'ai eu l'occasion, pour des raisons de carrière très, très riches, d'aller travailler dans des pays étrangers où il y avait une très grosse population qui était en grosse connexion avec les systèmes sanitaires français pour les rapatriements sanitaires, les prestations, etc. J'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi en France, en dehors du système hospitalier, dans des quartiers, je dirais, où il y a un règne communautarisme assez important, et j'ai pu constater la chose suivante. Il y a une fraude, mais qui est colossale. Franchement, le taux de 20%, ça me semble, pas à mesurer, mais c'est de cet ordre-là. Et ça fait énorme au prix du coût de la santé. Alors, il y a des fraudes qui ne sont pas très très graves, mais qui sont très fréquentes. La première, et les médecins ne vont évidemment pas protester là-dessus, en gros, vous avez une carte vitale qui sert à 20 personnes, qui se ressemblent à peu près, qui ont à peu près le même nom, à peu près la même tête sur la photo, et ça sert 20 fois. Vous pouvez avoir une vingtaine d'opérations de l'appendicite sur la même personne, vous avez des médicaments en permanence, et en gros, avec une carte de sécurité sociale, vous soignez 20 personnes qui ne sont pas déclarées.
Alors, attendez, Pierre, question de néophyte, Pierre, question de néophyte dans ces conditions. S'il y a 20 personnes qui passent pour venir se faire opérer, à un moment donné, on ne se pose pas la question, parce que c'est enregistré, vous avez eu cancer de la prostate, cancer du pied, cancer de... etc., non ?
Ouais, pratiquement impossible, parce que, vous savez, les gens qui soignent, parce que ça, ce sont vraiment des gens malades, et c'est pour ça que je dis, on n'est pas très très grave, on va pas s'amuser à faire les policiers, ça, c'est quelque chose qui passe, et paradoxalement, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais ça existe, on le voit tout le temps. Deuxièmement, on voit passer, des cartes de sécurité sociale, qui sont à l'évidence bricolées, quand tu voyais le nom, l'adresse, la gueule de la photo, les types vous la fait passer, et vous savez très bien que c'est pas une carte de sécurité sociale qui est valable, et malheureusement, ils le font. Tant que c'est des soins, c'est gênant, ça coûte cher, mais c'est dans l'ordre des choses, et les médecins sont là pour soigner. Par contre, là où ça commence à abaillé un petit peu avec l'électricité, c'est quand les gens en profitent pour avoir des prestations sociales. Et ça, ben, je ne peux pas le mesurer, mais je ne peux pas le témoigner non plus précisément, mais on l'a vu des dizaines de fois, des gens qui touchent, et qui touchent une fois, deux fois, trois fois des revenus familiaux, des, comment ça s'appelle, des prestations pour les enfants, etc. Et c'est, j'ai quelques amis qui travaillent dans ces bureaux-là, et ils ne peuvent pratiquement rien faire, parce qu'il y a une espèce de, je dirais, d'omerta et d'incitation à ne rien dire pour acheter une paix sociale indirectement. Ensuite, vous avez, et j'ai travaillé à l'étranger, vous avez des gens, et puis je vous garantis que ce n'est pas les plus pauvres, très loin de là, mais qui auront, pour des raisons totalement inconnues, une sécurité sociale française, qui sont rapatriés, soignés gratuitement, alors que dans leur pays, ils sont milliardaires, ils exploitent complètement la population qui n'a rien, et pour finir, et donc ils se font soigner gratuitement, puis ils envoient les cousins, les machins, toujours avec un système de papier qui est manifestement faux, bidonné, bricolé ou de complétude. Et pour finir, vous avez des gens, et ça on le voit très souvent, qui utilisent les cartes de sécurité sociale pour acheter des médicaments dont ils n'ont pas besoin et qui sont réexpédiés à l'étranger. Et là, ce ne sont pas des médicaments qui sont faits pour soigner des pauvres qui n'ont rien. On comprend très bien que le type qui a sa mémé au bled et à qui manque un petit peu de tonique cardiaque, bon, il va piquer quelques boîtes de Digitalis, mais il va les abonner, ça passerait encore moralement. On n'est quand même pas, pas des nazis. Mais c'est, ça part dans des circuits de revente.
C'est du trafic de médicaments.
Oui, mais énorme. Oui. Et bon. Ça devient révoltant au bout d'un moment.
Ouais. Voilà, alors, je ne peux pas le quantifier,
mais je peux vous dire qu'il y a une anguille sous roche et une grosse anguille.
Voilà. Et il y a plusieurs anguilles même, si vous voulez. Et elles sont dans le livre de Charles Prats. On va en reparler dans un instant. C'est dans les coulisses justement d'un casse du siècle. Merci de votre témoignage, Pierre. J'imagine Charles Prats. On va le commenter dans un instant, que ce sont des choses que vous connaissez et que vous avez vues et que vous dénoncez évidemment dans votre livre.
9h47. On revient tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h51, toujours avec Charles Prats, et ce livre, Cartel des fraudes, et vos appels au 0826-300-300.
Oui, ça suscite beaucoup de commentaires.
Oui, beaucoup, avec Olivier qui nous appelle de Montpellier. Bonjour.
Bonjour Olivier.
Bonjour à toute l'équipe, bonjour à notre invité.
Bonjour.
J'ai pas pris connaissance de votre bouquin, j'ai survolé un petit peu ce que vous avez écrit. Je tenais surtout à pointer du doigt quelque chose qui fait référence à la fraude, mais je dirais c'est une réflexion en fait qui je pense va mettre un peu en ébullition le ravioli à M. Prats.
Ouais.
Je pense qu'il l'a abordé. C'est la fraude tout simplement aux travailleurs détachés et à tout ce qui est lié. Donc, vous savez très bien que ça met à mal déjà l'économie, les petites PME.
Ouais.
Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on a des organismes de contrôle, des organismes de surveillance et même, je dirais, une application de la Cour des comptes dans le domaine, notamment avec un rapport qui a été fait, il me semble, en 2016, où effectivement, décerner un bonnet d'âne au centre d'organismes de contrôle qui est l'ACOS, qui dépend de la sécurité sociale.
Pas assez bien, Olivier, pas assez bien contrôlé pour les travailleurs détachés, c'est ce que vous dites.
Notamment.
Mais non, mais c'est vrai, c'est un sujet. Charles Prats, parce qu'il nous reste 4 minutes.
Des travailleurs détachés, on n'est pas sur la prestation sociale, on est sur les cotisations sociales.
Oui, c'est vrai.
Alors, c'est quelque chose qu'on connaît, effectivement, on a des problèmes là-dessus, mais qui sont très complexes, surtout quand on est en face d'une organisation très bien faite. On l'a vu dans le domaine aérien, etc., de travail détaché, de fraude aux cotisations pour ne pas payer les charges sociales au niveau français. Mais on a un problème, et la cause, moi je ne leur jette pas la pierre aux URSSAF, c'est que la réglementation européenne est très complexe et en fait ils ont beaucoup de mal à remettre en cause les certificats européens en matière de travail détaché, et donc ils se sont pris quelques pralines en justice.
C'est un autre grand chantier, quoi. Samy est avec nous.
Bonjour Samy.
Oui, bonjour, merci pour l'émission.
Ouais.
Bonjour Monsieur Prats.
Bonjour.
Alors, je me suis penché un petit peu sur le livre de Monsieur Prats. Je dirais que La seule chose pour laquelle je lui donne vraiment raison, c'est surtout le nombre très élevé en fait de numéros de sécurité sociale par rapport au nombre d'habitants. Là-dessus, il n'y a pas de doute.
Ouais.
C'est quelque chose qui devrait s'arrêter. Il faut refaire un recensement en fait et effacer en fait ce qu'il faut effacer.
Ouais.
Je m'arrête là pour ce ouais. volet-là.
Ouais.
Maintenant, sur ce que certains disent, ce qui me fait peur, c'est que cette histoire en fait de fraude, souvent, elle s'apparente en fait à la notion en fait des étrangers. Mmh. C'est le bled, etc., etc. Je ouais. précise.
Ouais.
Pour les médicaments qui partent, par exemple, à l'étranger, là, ouais. on parle surtout de ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État, c'est 900 millions d'euros par an.
Ouais.
Le budget de la Sécu maladie, c'est 183 milliards. Le budget de la Sécu vieillesse, c'est 217 milliards. Ça, c'est pour donner, en fait, un ordre de grandeur l'un par rapport à l'autre.
Ouais.
Aujourd'hui, si on supprime, en fait, l'aide médicale d'État, qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui a la tuberculose. Il ne peut pas se soigner. On est très embêté. Je vous parle en tant que professionnel de santé.
Ouais, ouais.
Donc, il y a d'autres niches où on peut chercher des économies. Je prends un exemple. Il y a aujourd'hui des médicaments dont ce qu'on appelle le SMR, le service médical rendu,
ouais.
il est quasiment inintéressant. On peut faire des économies, des fois, sur un seul médicament de 500 millions par an.
Ouais.
On ne le fait pas. L'histoire, par exemple, de la fraude, les étrangers. Souvent, c'est le fonds de commerce, en fait, des extrémistes.
Ouais,
les étrangers profitent, etc., etc. Non, il y a d'autres segments sur lesquels, en fait, on peut se baser
ouais.
Pour faire cette économie. Exemple, on a quelqu'un qui part en vacances.
Ouais.
Le seul pays où on voit ça, où la personne veut partir en vacances, elle passe chez le médecin pour avoir une ordonnance, pour avoir des antidiarrhéiques, pour avoir des produits pour partir en vacances. Je veux dire, c'est un non-sens.
Ouais.
Il y a plusieurs leviers. On a déjà des institutions en fait, qui font les gardes Chiroun. Exemple, la CRDS.
Bon, si je résume un peu ce que vous dites Charles Pratt, il a raison sur certains points, mais en revanche, il fait le jeu un peu des extrêmes et il s'attaque trop à l'immigration aux étrangers. C'est ce que vous dites, hein, Samy.
Je n'oserais pas dire ça comme ça.
Bah non, mais moi je résume. Je me permets. Je me permets.
Pour qu'il ait le temps de répondre.
Ouais.
Alors bon,
restez avec nous.
Le problème, la question, si on regarde, bon, je l'établis, 5 millions de fantômes, c'est moitié-moitié, c'est 2 millions. Et demi ouais. né à l'étranger, 2 millions et demi né en France.
Ouais, ouais. Ouais.
Donc on a pour 50%, malgré tout, il ne faut pas se voiler la face, un problème né à l'étranger, donc en lien avec l'immigration. C'est un fait, c'est comme ça. Sur l'aide médicale de l'État, c'est à peu près 1 milliard budgété. C'est pas le en masse de fraude, c'est pas là-dessus qu'il y en a le plus. En revanche, l'AME, c'est quelque chose d'emblématique parce que vous offrez une protection gratuite à des gens, et quand vous comparez à ce qu'on demande en contrepartie à des travailleurs modestes, quelqu'un qui est au SMIC ouais. ou une femme de ménage à mi-temps, etc., elle paye des cotisations. Son employeur paye des cotisations pour elle, et donc ça va coûter entre 3 500 et 4 500 euros par an pour qu'elle ait sa sécurité sociale complète. Alors, elle n'a pas que la maladie, elle a la retraite, etc. Mais ça coûte des sous, c'est pas gratuit la sécurité sociale. Ça coûte des sous et tout le monde paye tous les mois. Tous les gens qui travaillent, ils payent tous les mois, y compris les travailleurs les plus modestes. Ils ne sont pas exonérés de cotisations sociales. Donc là, il y a une vraie question à se poser, c'est quid. Et derrière, l'AME, c'est une des sources du trafic de médicaments, mais pas que. Il y a ce qu'on appelait avant la SAMU complémentaire, donc maintenant la CSS. Alors je donne l'exemple dans le livre, par exemple le Subutex, qui est un médicament qui est un substitut à l'héroïne pour les gens qui sont toxicomanes, on arrive à déterminer que la moitié du Subutex mis sur le marché en France part dans les trafics. Puisqu'en réalité, par rapport au nombre de patients qu'il y a, on vend 10 millions, enfin on met sur le marché 10 millions de boîtes.
Bon, grosso modo, Charles Prats, grosso modo, vous ne voulez pas stigmatiser, mais vous dites, bah voilà, il y a des abus en fait dans tous ces secteurs.
Je suis très basique, je dis les choses. Ouais. Après, les gens tirent les conclusions qu'ils veulent. C'est aussi le problème. C'est pour ça qu'on a eu une omerta pendant des années sur ce sujet-là.
Ouais.
Parce que justement, les gens disent, ah mon Dieu, il ne faut pas en parler.
Ce que disait Pierre, là.
Ça fait monter les extrêmes, ça fait monter ceci, ça fait monter cela. C'est Marine Le Pen qui va tirer les marrons du feu, etc. Mais ce que les gens ne comprennent pas, en tout cas les décideurs politiques, c'est que c'est justement de ne pas nommer les problèmes, de ne pas les traiter, qui énerve l'électeur.
Ouais.
Vous savez, là, je le dis très clairement, d'ailleurs je crois que je le dis à la fin du bouquin, l'homme ou la femme politique qui va prendre le sujet à bras le corps, qui va dire voilà où est le problème, on va le traiter, et qui va le traiter, parce qu'il ne faut pas dire on va le traiter sans le traiter, mais qui va le traiter, il prendra 20 à 25 points dans les sondages et derrière dans les urnes.
Allez, voilà, en attendant les lecteurs, le lecteur, cartel des fraudes, vous pouvez le lire, c'est aux éditions Ring, Charles
Pratt. En ce moment, il revient, parce que là il est en rupture, parce qu'il s'est bien vendu, donc il revient normalement à partir de jeudi, puisque le retirage arrive chez le diffuseur.
Vous allez payer des impôts
jeudi.
Dessus.
Ah, je vais peut-être le mettre.
Allez, dans un instant, on court, parce que c'est Valérie Expert, on a dépassé un petit peu notre temps. Valérie Expert, dans un instant, qui reçoit qui qui reçoit
Thierry
Beccaro.
Exactement. Voilà. Et ben voilà. À demain. Salut.